Le soir de leur arrivée, voulant se rendre au lieu d'aisance avant de se coucher, les jeunes étudiantes créèrent un tel embouteillage qu'à 1 h du matin, les toutes dernières étaient encore en train de rentrer. Fernanda fit alors l'acquisition de 62 pots de chambre, mais ne réussit qu'à transformer le problème nocturne en problème matinal, car on put voir à l'aube, devant les lieux, une longue file de jeunes filles, chacune tenant son pot à la main et attendant son tour de le vider. Hormis quelques-unes, qui eurent des poussées de fièvre, et plusieurs dont les piqûres de moustiques s'infectèrent, la plupart d'entre elles, face aux difficultés les plus pénibles, firent montre d'une résistance à toute épreuve, et on les vit même à l'heure la plus chaude flâner dans le jardin. Quand elles finirent par s'en aller, les fleurs étaient saccagées, les meubles brisés et les murs tout couverts de dessins et d'inscriptions. Mais Fernanda fut si soulagée de les savoir partis qu'elle leur pardonna leur ravage. Elle rendit les lits et les tabourets prêtés et conserva les 62 pots de chambre dans le cabinet de Malquiades. Cette pièce qu'on tenait fermée, autour de laquelle tournait autrefois la vie spirituelle de la maison, fut connue dès lors sous le nom de la chambre aux pots. Pour le colonel Aureliano Buendía, c'était d'ailleurs l'appellation qui lui convenait le mieux, car tandis que le reste de la famille continuait à s'émerveiller de ce que la pièce de Melquiades resta préservée de la poussière et de la destruction, lui-même la voyait transformée en une véritable poubelle. De toute manière, il lui importait peu de savoir qui avait raison. Et il n'apprit le nouveau destin de cette chambre qu'incidemment, parce que Fernanda le dérangea dans son travail tout un après-midi en passant et repassant pour aller ranger ses pots. C'est vers cette époque que José Arcadio II refit son apparition à la maison. Il filait tout droit sous la véranda, sans saluer personne. Il allait s'enfermer dans l'atelier où il conversait avec le colonel. Bien qu'elle ne pût le voir, Ursula analysait le bruit que faisaient les talons de ses bottes de contremaître et était surprise de constater quel fossé impossible à combler le séparait à présent du reste de la famille, même de son frère jumeau, avec lequel enfant il jouait à inventer d'ingénieux stratagèmes pour qu'on les confondît, mais avec lequel il n'avait déjà plus aucun trait commun. Il était tout en longueur, avec un air solennel, une attitude pensive, une tristesse de sarrasin et comme un éclat lugubre sur son visage couleur d'automne. Il était celui qui ressemblait le plus à sa mère, Sainte Sophie de la Piété. Ursula se reprochait d'avoir tendance à l'oublier quand elle parlait de la famille. Mais lorsqu'elle le sentit de nouveau à la maison et qu'elle remarqua que le colonel l'admettait dans son atelier pendant les heures de travail, elle se reprit à examiner ses vieux souvenirs et acquit la conviction qu'à certains moments de leur enfance, il s'était interverti avec son frère jumeau. Car c'était bien lui et non ce dernier qui aurait dû s'appeler Aureliano. Personne ne connaissait les détails de son existence. À une certaine époque, on sut qu'il n'avait pas de domicile fixe, qu'il élevait des coqs de combat chez Pilar Ternera et qu'il y restait parfois dormir, mais en fait, il passait presque toutes ses nuits dans les chambres des matrones venues de France. Il allait à la dérive, sans affection, sans ambition, comme une étoile filante dans le système planétaire d'Ursula. En vérité, José Arcadio II n'était plus membre de la famille et ne devait appartenir à aucune autre, depuis cette aube lointaine où le colonel Guérinaldo Marquez l'avait emmené à la caserne, non pour qu'il assistât à une exécution, mais afin que restât gravé dans sa mémoire pour le restant de ses jours ce sourire triste et un peu moqueur du fusillé. Ce n'était pas seulement son plus ancien souvenir, mais le seul qu'il gardait de son enfance. L'autre, celui d'un vieillard qui portait un gilet anachronique et un chapeau en aile de corbeau et racontait des merveilles devant une fenêtre par où passait un jour aveuglant, il ne réussissait à le situer dans aucune époque. Celui-ci était un souvenir incertain, tout à fait dépourvu d'enseignement ou de nostalgie, au contraire du souvenir du fusillé qui avait réellement décidé de l'orientation de sa vie et qui lui revenait de plus en plus nettement en mémoire au fur et à mesure qu'il vieillissait, comme si le cours du temps l'en rapprochait. Ursula essaya de se servir de José Arcadio II pour faire sortir le colonel Aureliano Buendía de sa retraite. « Convainc-le d'aller au cinéma !» lui disait-elle. « Même si les films ne lui plaisent pas, il aura du moins l'occasion de respirer l'air pur !» Mais elle ne tarda pas à se rendre compte qu'il demeurait aussi insensible à ses prières qu'aurait pu l'être le colonel, et qu'une même cuirasse les rendait imperméables à toute forme d'affection. Bien qu'elle ne sût jamais, et que tout le monde restât sans savoir de quoi ils pouvaient bien parler au cours de leurs apartés prolongés dans l'atelier, Il lui vint à l'esprit qu'ils étaient bien les deux seuls membres de la famille à avoir l'air unis par leurs affinités. La vérité était que José Arcadio le second lui-même ne serait pas parvenu à faire sortir le colonel de sa retraite. Avec l'invasion des collégiennes, les limites de sa patience avaient été dépassées. Sous prétexte que la chambre nuptiale était livrée au mythe malgré la destruction des affriolantes poupées de Remedios, il suspendit un hamac dans l'atelier qu'il ne quitta désormais que pour aller faire ses besoins au jardin. Ursula ne parvenait pas à avoir avec lui la conversation la plus banale. Elle savait qu'il ne jetait pas un seul coup d'œil sur les plats qu'elle lui servait, mais qu'il les plaçait à un bout de son établi afin de pouvoir terminer l'un de ses petits poissons, et il lui importait peu que sa soupe fût figée ou que la viande devint froide. Il se montra de plus en plus dur à compter du jour où le colonel Guerinaldo Marquez refusa de le seconder dans la guerre sénile qu'il voulait déclencher. Il se referma en lui-même à double tour, et dans la famille on finit par penser à lui comme à un mort. On ne lui connut plus aucune réaction humaine jusqu'à ce 11 octobre, où il sortit sur le pas de la porte pour assister dans la rue au défilé d'un cirque. Pour le colonel Aureliano Buendía, cette journée avait été identique à toutes celles de ces dernières années. À 5 heures, le bruit des crapauds et des grillons de l'autre côté du mur l'avait réveillé. Il tombait une petite pluie fine qui persistait depuis le samedi précédent. Mais pour le savoir, il n'aurait pas eu besoin d'entendre son minuscule chuchotement sur les feuilles du jardin. De toute façon, il l'aurait senti au froid qui le pénétrait jusqu'aux os. Il était emmitouflé comme toujours dans sa couverture de laine et avait passé ses longs caleçons de cotonnade qu'il continuait à porter par commodité, bien qu'en raison de leur poussiéreux anachronisme, il les appela lui-même des caleçons conservateurs. Il enfila ses pantalons étroits sans en nouer les ganses, de même qu'il ne mit pas à son col de chemise le bouton en or qu'il portait toujours, car il avait l'intention de prendre un bain. Puis il se couvrit la tête de sa couverture comme d'une cagoule, peigna avec ses doigts sa moustache dégoulinante et s'en fut pissé au jardin. Il s'en fallait encore de beaucoup pour qu'émergeât le soleil, et José Arcadio Buendía dormait toujours sous son auvent de palme pourri par la pluie. Il ne l'avait jamais vu et ne le vit pas davantage cette fois-ci. Pas plus qu'il n'entendit la phrase incompréhensible que lui adressa le spectre de son père, réveillé en sursaut par le jet d'urine fumante qui lui éclaboussait les souliers. Il remit le bain à plus tard, non pas à cause du froid et de l'humidité, mais à cause de ce brouillard d'octobre qui l'oppressait. De retour à l'atelier, il perçut l'odeur de cierge mouché des fourneaux qu'était en train d'allumer Sainte-Sophie de la Piété et attendit à la cuisine que le café fût chaud pour en emporter un bol sans sucre. Comme tous les matins, Sainte-Sophie de la Piété lui demanda quel jour de la semaine on était et il lui répondit qu'on était mardi, le 11 octobre. À la vue de cette femme si impavide, dorée par les reflets du feu, laquelle en cet instant précis, pas plus qu'à tout autre moment de sa vie, ne paraissait exister tout à fait, il se rappela tout à coup qu'un 11 octobre, en pleine guerre, il avait été réveillé par la conviction soudaine que la femme qui était couchée avec lui était morte. Elle l'était bel et bien, et il ne pouvait oublier cette date parce qu'elle aussi lui avait demandé une heure auparavant quel jour on était. Malgré cette évocation, il ne mesura pas cette fois encore combien les présages l'avaient abandonné. Et tandis que le café bouillait, il continua par pure curiosité, mais sans le plus infime risque de nostalgie, à penser à cette femme, dont il ne sut jamais le nom et dont il ne vit jamais le visage en vie, car elle était parvenue jusqu'à son hamac en trébuchant dans l'obscurité. Pourtant, dans le flou de tant de femmes qui firent intrusion dans sa vie de semblable manière, il omit de se souvenir que ce fut elle qui, dans le délire de leur première rencontre, faillit naufrager dans ses propres larmes et, une heure à peine avant de mourir, lui avait juré de l'aimer jusqu'à sa mort. Il ne songea plus à elle, non plus qu'à aucune autre, pénétra dans son atelier avec son bol fumant et fit la lumière pour compter les petits poissons en or qu'il conservait dans une écuelle de fer blanc. Il y en avait 17. Depuis qu'il avait décidé de ne plus les vendre, il continuait à fabriquer 2 petits poissons par jour. Et lorsqu'il arrivait au nombre de 25, il les fondait à nouveau dans le creuset pour se remettre à les fabriquer à nouveau. Il s'absorba toute la matinée dans son travail, sans penser à rien, sans se rendre compte qu'à 10 heures, il pleuvait de plus belle, sans entendre quelqu'un passer dans l'atelier en criant qu'on fermât bien les portes si l'on ne voulait pas que la maison fût inondée, et sans avoir conscience de sa propre existence, jusqu'à ce qu'Ursula fît son entrée, portant le déjeuner et éteignant la lumière. « Quelle pluie !» dit Ursula. « Octobre !» répondit-il. Il prononça ce mot sans lever les yeux du premier petit poisson de la journée dont il était en train de sertir les yeux de Ruby. Ce n'est que lorsqu'il l'eut achevé qu'il le plaça avec les autres dans l'écuelle et se mit à boire sa soupe. Puis, il mangea très lentement le morceau de viande en ragoût accompagné d'oignons, de riz blanc et de tranches de bananes frites, servies dans la même assiette. Son appétit ne s'altérait ni dans les meilleures ni dans les pires circonstances. Après déjeuner, il connut le malaise du désœuvrement. Par une espèce de superstition scientifique, il laissait toujours s'écouler 2 heures de digestion sans travailler, ni lire, ni se baigner, ni faire l'amour, et cette croyance était si ancrée en lui qu'il lui arriva plusieurs fois de retarder des opérations militaires pour ne pas faire courir à ses hommes le risque d'une congestion. Il se coucha donc dans son hamac, s'occupant à ôter la cire de ses oreilles à l'aide d'un canif, et au bout de quelques minutes s'endormit. Il rêva qu'il pénétrait dans une demeure vide, au mur tout blanc. L'impression pesante d'être le premier humain à y entrer le rendait inquiet. Dans ce même rêve, il se rappela qu'il avait rêvé la même chose la nuit précédente et au cours de nombreuses nuits de ces dernières années, et il sut que cette image se trouverait effacée de sa mémoire dès son réveil. Car le rêve, dans sa récurrence, avait cette particularité qu'on ne pouvait s'en souvenir qu'à l'intérieur du même rêve. De fait, au bout d'un moment, quand le coiffeur frappa à la porte de l'atelier, le colonel Aureliano Buendia se réveilla avec l'impression qu'il s'était assoupi malgré lui pendant quelques brèves secondes et n'avait eu le temps de rêver à rien. « Pas aujourd'hui, » dit-il au coiffeur. « On se verra vendredi. » Il avait une barbe de 3 jours toute mouchetée de flocons blancs, mais il ne jugeait pas nécessaire de se raser s'il devait se faire couper les cheveux le vendredi suivant et pouvait parer à tout en même temps. Cette sieste malencontreuse l'avait mis en sueur, et le liquide collant avait réveillé les cicatrices de furoncles de ses aisselles. La pluie s'était arrêtée, mais le soleil n'avait pas encore paru. Le colonel Aureliano Buendia émit un rot sonore qui lui remit en bouche l'acidité de la soupe et qui fut pour lui comme un ordre de son organisme lui commandant de se jeter la couverture sur les épaules et de se rendre au lieu d'aisance. Il y demeura plus longtemps qu'il n'était nécessaire, accroupi au-dessus de l'intense fermentation qui montait du caisson de bois, jusqu'à ce que par routine, il s'aperçut que l'heure était venue de reprendre son travail. Tout le temps que dura cette attente, il se rappela à nouveau qu'on était mardi et que José Arcadio II n'était pas venu à l'atelier parce que c'était jour de paix à la compagnie bananière. Ce rappel, comme tous ses souvenirs de ces dernières années, l'amena sans qu'il s'en rendît compte à penser à la guerre. Il se rappela que le colonel Guérinaldo Marquez lui avait promis un jour de lui procurer un cheval portant une étoile blanche au front, et qu'il n'en avait jamais plus entendu parler. Puis il dériva d'un épisode à l'autre en ordre dispersé, se bornant à les évoquer sans porter de jugement sur aucun, car à force de ne pouvoir fixer son esprit sur autre chose, il avait appris à penser à froid, afin que ses souvenirs inéluctables n'atteignissent plus sa sensibilité. De retour à l'atelier, il constata que l'atmosphère devenait plus sèche et résolut que c'était le moment de prendre un bain. Mais Amaranta l'avait déjà devancé, alors il commença le deuxième petit poisson de la journée. Il était en train de souder la queue quand le soleil émergea avec tant de force que son éclat craqua comme une balandre. L'air lavé par 3 jours de pluie se remplit de fourmis volantes. Il se sentit alors envie d'uriner, mais se rendit compte qu'il était en train de se retenir jusqu'à ce qu'il eût fini de dorer le petit poisson. À 4h10, il se rendit au jardin quand il entendit retentir des cuivres dans le lointain, des battements de grosses caisses et des enfants joyeux, et pour la première fois depuis son jeune âge, il se laissa délibérément tomber dans un piège que lui tendait la nostalgie. Et revécut le prodigieux après-midi des Gitans, quand son père l'avait emmené faire connaissance avec la glace. Sainte Sophie de la Piété quitta ce qu'elle était en train de faire à la cuisine et se précipita vers la porte d'entrée. « C'est le cirque !» s'écria-t-elle. Au lieu de continuer en direction du châtaignier, le colonel Aureliano Buendia se dirigea lui aussi vers la porte de la rue et se mêla aux curieux qui contemplaient le défilé. Il vit une femme toute costumée d'or sur la nuque d'un éléphant. Il vit un dromadaire mélancolique. Il vit un ours vêtu en femme de Hollande qui marquait le rythme de la fanfare avec une louche et une casserole. Il vit des clowns faire des pirouettes en queue de défilé. Et il vit à nouveau le misérable spectacle de sa solitude. Quand tout fut passé et qu'il ne resta plus rien à voir que la plage lumineuse de la rue, l'air rempli de fourmis volantes, et quelques curieux penchés au bord du gouffre de l'incertitude. Il se rendit alors sous le châtaignier, pensant au cirque, et voulut continuer d'y penser tout en urinant, mais il n'en retrouva déjà plus trace dans ses souvenirs. Il rentra sa tête dans ses épaules comme les poussins et demeura immobile, le front contre le tronc du châtaignier. La famille ne fut au courant que le lendemain, quand Sainte-Sophie de la Piété voulut se rendre au fond du jardin pour vider les ordures, et eut son attention attirée par le vol d'Ouroubou qui descendait.